Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Vigilance, le podcast d'actualité de Lefèvre Dalloz, dédié aux enjeux ESG. Alors aujourd'hui, avec les journalistes Clémence Andrieux, Leslie Brassac et Anne-Laure Pasquet, nous allons évoquer le niveau de décarbonation des entreprises cotées dans l'UE, le poids de l'inflation sur les salaires et l'analyse des derniers rapports extra-financiers par l'OCDE. Sans plus attendre, on débute avec toi Clémence. Tu voulais nous parler d'un rapport intitulé « Get the money moving » du Carbon Disclosure Project. Il s'intéresse aux stratégies de décarbonation des entreprises européennes.
En effet, d'ici 5 ans, l'Union européenne doit atteindre son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% fixé par rapport à l'accord de Paris. Et pourtant, seule une entreprise européenne sur 5 réalise des changements substantiels pour passer à un modèle d'entreprise plus écologique. C'est la conclusion du rapport présenté le 26 mars par le CDP en collaboration avec le cabinet Olivier Wyman. Il met en lumière un déficit de mise en œuvre des stratégies de décarbonation que se fixent les entreprises européennes. Le CDP a analysé les données de plus de 1600 entreprises qui représentent près de 90% de la capitalisation boursière en Europe.
Alors concrètement, où en sont ces entreprises dans leur décarbonation ?
Eh bien Sophie, la bonne nouvelle, c'est qu'à une large majorité, ces entreprises déclarent avoir adopté des objectifs de réduction des émissions de leurs activités. Par contre, seulement une petite moitié dispose de plans de transition climatique sur les deux prochaines années. Et là où le bât blesse vraiment, c'est lorsqu'on regarde le niveau d'investissement que les entreprises consacrent à leur décarbonation. Et un chiffre de l'étude est marquant. Moins d'un quart des dépenses d'investissement d'une large majorité des entreprises interrogées est dédié à des projets conformes à leur plan de transition. L'accès au financement est donc un défi. Il est d'ailleurs qualifié de préoccupation majeure par un tiers des répondants.
Mais pourquoi Clémence ? Est-ce qu'il y a une explication à cela ?
Oui, selon le CDP, les modèles d'entreprise écologique restent aujourd'hui moins attrayants sur le plan commercial que les modèles existants qu'ils cherchent à remplacer. Plusieurs raisons à cela. Les projets de décarbonation sont souvent de taille importante, ils ont un horizon temporel lointain, ou encore ils font appel à des technologies ou des marchés qui n'ont pas fait leurs preuves à ce jour. Ils sont alors en décalage avec le fonctionnement actuel des institutions financières. Et enfin, l'évolution du paysage réglementaire est aussi vue comme un frein.
Les entreprises ne sont donc pas assez soutenues dans leur processus de décarbonation, on voit, mais est-ce qu'elles développent des produits bas carbone ?
Pas vraiment, Sophie. L'offre de produits bas carbone reste aujourd'hui marginale. Elle représente moins d'un quart du chiffre d'affaires de la grande majorité des entreprises analysées. C'est d'autant plus vrai dans les secteurs de l'industrie pétrolière et gazière, de l'agroalimentaire et du tabac, ou encore de l'agriculture. Et autre chiffre marquant, la quasi-totalité des entreprises de l'acier propose désormais de l'acier bas carbone, mais celui-ci ne représente que 22% du chiffre d'affaires du secteur. Et au-delà des produits, le CDP souligne aussi que les entreprises n'engagent pas assez d'actions de décarbonation sur leur chaîne de valeur. Seulement la moitié s'intéresse aux émissions de leurs fournisseurs et des utilisateurs finaux, c'est-à-dire sur le scope 3. Et pourtant, c'est souvent sur ce périmètre que les impacts carbone sont les plus importants.
Le CDP fait-il d'autres recommandations en creux aux banques et aux entreprises ?
Oui Sophie, le CDP reprend à son compte une affirmation du Forum économique mondial qui est que la moitié de l'économie mondiale dépend de la nature, ce qui rend son salut essentiel et pas seulement pour le climat. Or à l'heure actuelle, ni les banques ni les entreprises n'intègrent de façon systématique des préoccupations comme la déforestation ou la sécurité de l'approvisionnement en eau dans leurs décisions d'investissement ou leurs plans de transition. Alors, à quand de nouveaux business models et un véritable passage à l'action sur tous les enjeux environnementaux ?
Eh bien, on espère que tu nous donnes de bonnes nouvelles rapidement dans ce podcast. Leslie, on aborde avec toi le poids de l'inflation sur le niveau de vie des travailleurs européens qui serait en baisse.
Bonjour à tous. Et oui Sophie, aujourd'hui je voulais revenir avec vous sur le dernier rapport annuel de l'Institut syndical européen qui a été publié en mars. On y apprend que la rémunération réelle des travailleurs, c'est-à-dire le salaire après prise en compte de l'inflation, a baissé en moyenne de 0,7% en 2023. Et selon les pays, l'écart se creuse considérablement. Par exemple, là où la situation est la plus dramatique, c'est en Hongrie et en République tchèque, où les rémunérations ont baissé de près de 4%. L'Allemagne et la France ne s'en sortent pas beaucoup mieux, puisqu'elles figurent également parmi les 10 États membres où les rémunérations ont le plus diminué, avec 0,9% et 0,6% de baisse. Comme le pointent les auteurs du rapport, les travailleurs européens font donc face à une lourde chute de leur niveau de vie. Et l'année 2022 avait déjà marqué un record avec une baisse de 4,3% des rémunérations réelles en moyenne.
Alors, que peuvent faire les entreprises pour renouer avec des tendances haussières ?
Le rapport souligne qu'elles ont bien sûr un rôle à jouer pour améliorer le niveau de vie de leurs salariés en décidant d'augmenter les salaires des plus précaires. Et il faut savoir aussi que la Banque Centrale Européenne s'est saisie du sujet en juin 2023 en s'interrogeant sur l'impact des marges bénéficiaires élevées des entreprises sur l'inflation. En tout cas, selon Eurostat, l'inflation serait toutefois en baisse dans la zone euro. En janvier 2024, le taux d'inflation s'élevait seulement à 2,8% contre plus de 8% l'année passée. À l'approche des élections européennes, les syndicats européens réclament donc aux partis politiques de porter plusieurs propositions. On peut citer par exemple interdire l'accès au marché public aux entreprises qui refusent de négocier les salaires avec les syndicats, ou encore créer un impôt sur les bénéfices excessifs des sociétés.
Le bilan de l'Institut syndical européen sera peut-être meilleur sur la totalité de l'année 2024. Merci Leslie. On enchaîne avec toi Anne-Laure et le dernier rapport de l'OCDE sur les rapports de durabilité des entreprises cotées dans le monde.
Effectivement. Mi-mars, l'OCDE a publié son rapport mondial sur les pratiques de durabilité dans la gouvernance d'entreprises. Quelques chiffres pour commencer. L'OCDE relève qu'environ 9600 entreprises cotées au niveau mondial, ce qui représente quand même une valeur totale en bourse de 85 billions de dollars, ont divulgué en 2022 des informations liées à la durabilité. 70% d'entre elles communiquent un objectif de réduction des gaz à effet de serre, dont la moitié à horizon 2030. On retiendra aussi que sur ces 9600 entreprises, les deux tiers font appel à des prestataires de services externes pour vérifier la publication de ces informations.
Qu'en est-il au niveau de l'organisation des conseils d'administration sur les sujets de la durabilité ?
Plus de la moitié des entreprises cotées au niveau mondial ont des comités chargés de superviser les questions de durabilité qui rendent directement compte au conseil d'administration. Aux États-Unis, c'est le cas de 3/4 des entreprises cotées, tandis qu'en Europe, cela se vérifie pour la moitié d'entre elles. L'OCDE insiste sur le fait que les conseils d'administration jouent un rôle essentiel dans l'évaluation des risques liés à la durabilité. Autre point, le rapport souligne que la rémunération des dirigeants est liée aux questions de durabilité dans la grande majorité des entreprises européennes et dans plus de la moitié des entreprises américaines.
Le rapport se penche aussi sur les activités de lobbying des entreprises cotées. Peux-tu nous en dire plus ?
Tout à fait. Par le biais de ces activités, les entreprises peuvent influencer les politiques, les lois et les réglementations liées aux enjeux ESG. Parmi toutes les entreprises ayant déclaré des activités de lobbying, près d'un tiers appartiennent aux deux secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre, c'est-à-dire les industries extractives et traitement de minerais et les transformations de ressources. Seulement 2% de ces entreprises appartiennent à l'industrie des ressources renouvelables et des énergies alternatives.
Alors en définitive, que retenir de ce rapport ?
Eh bien, il est intéressant de noter que ce rapport souligne l'importance croissante de la durabilité dans la gouvernance d'entreprise. Il appelle à une action concertée pour accélérer la transition vers une économie plus durable et résiliente. Voici quelques recommandations de l'OCDE à viser des entreprises. Il est important d'envisager la certification obligatoire des informations de durabilité pour les grandes entreprises, de certifier des aspects spécifiques comme les émissions de gaz à effet de serre si la certification complète est coûteuse, ou encore d'assurer que les activités de lobbying des entreprises soient alignées sur les objectifs de durabilité fixés par l'entreprise.
Un très grand merci Anne-Laure. Merci à toutes les trois pour la présentation de ces actualités. Vous retrouvez les différentes études mentionnées dans ce podcast en lien actif sur LinkedIn ou dans la pastille de présentation de Vigilance. Notre épisode du mois d'avril touche à sa fin. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce format sur LinkedIn. On se retrouve dans un mois. D'ici là, portez-vous bien.